I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Un sacristain est mort hier en Espagne, assassiné parce qu'il était catholique. Son assaillant était entré dans son église et l'a attaqué avec une machette. 360 millions de chrétiens sont persécutés dans le monde à cause de leurs croyances religieuses. L'Afghanistan est le pire pays pour les chrétiens. Les talibans persécutent en toute impunité. Les talibans recherchent les convertis au christianisme et ils sont tués sur le champ. Les femmes ou les filles sont violées ou mariées de force à de jeunes talibans. Les autres zones les plus dangereuses pour les chrétiens sont la Corée du Nord, la Somalie, la Libye, le Yémen, l'Érythrée et le Nigeria. Ce chiffre de 360 millions est un chiffre record. Les populations subsahariennes sont particulièrement en danger, victimes des djihadistes. Toutes les branches de la chrétienté sont visées, catholiques, orthodoxes, protestants, baptistes, évangéliques, pentecôtistes. Les chrétiens sont persécutés dans quelques 76 pays. Une persécution en hausse constante depuis 9 ans. 5000 églises ont été détruites, fermées ou attaquées. Les chrétiens sont persécutés, mais convenons que ces massacres sont souvent ignorés par la presse française. C'est pourquoi je voulais en parler à 9h ce matin. Audrey Berthaud.
Les actes antisémites sont en baisse en 2022 selon le Conseil représentatif des institutions juives de France. 436 actes ont été recensés contre 589 l'année précédente. Mais le président du CRIF a tout de même commenté une baisse est une bonne nouvelle, mais c'est à relativiser. Il ne s'agit que des chiffres enregistrés en commissariat. Les actes les plus graves restent à un niveau élevé et cela ne reflète pas la réalité de l'antisémitisme sur Internet. Le dîner annuel du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, il s'est tenu hier soir à l'hôtel du collectionneur dans le 8e arrondissement de Paris. Les deux pays sont en conflit depuis septembre 2020. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était présent. Et puis du handball, les Bleus sont qualifiés pour les demi-finales du Mondial. L'équipe de France a dominé l'Allemagne 35 à 28 hier soir. Pour accéder à la finale, les Bleus devront battre la Suède à Stockholm. Match à suivre demain à 21h.
Régis Le Sommier est avec nous ce matin, il est directeur de la rédaction d'Omerta. On va dire les choses très clairement, ce matin on est inquiet. Et la question qui est dans notre esprit, c'est allons-nous tous vers une troisième guerre mondiale? C'est ça la question que je vais vous poser. On est avec Marie-Estelle Dupont que vous connaissez, Gérard Carrérou, Philippe Guibert, Olivier Dartigolle et Florian Tardif. Pourquoi nous sommes inquiets? Parce qu'on a le sentiment qu'il y a une escalade. Parce que Joe Biden annonce livrer 31 chars et que nous-mêmes, la France, on hésite à en livrer. Parce que Zelensky demande maintenant des missiles longue portée, qu'il demande des avions, que nous sommes en guerre, manifestement.
Que nous avons aussi dans l'oreille ce qu'avait dit Vladimir Poutine l'année dernière. Je tiens à vous rappeler que notre pays dispose de diverses armes de destruction. Le Kremlin tirera les conclusions appropriées et utilisera ses armes pour frapper des sites qu'il n'avait pas visés jusqu'à présent. Et puis il y a cette phrase, s'il y a une menace pour l'intégrité territoriale de notre pays, nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition. Ce n'est pas du bluff. Voilà ce qu'il avait dit. Et cette escalade, elle est avec la livraison des armes des Occidentaux. Je voudrais qu'on écoute Robert Ménard ce matin, qui est sur cette ligne-là. D'ailleurs, vous-même arrivé d'Ukraine, vous êtes resté 3 semaines dans les tranchées. Écoutons Robert Ménard et vous me dites ce que vous en pensez.
Quand on fournit des armes à l'Ukraine, on ne défend pas seulement l'intérêt de l'Ukraine, on défend l'intérêt de la France en Ukraine. Il y a des guerres qui se passent sur votre territoire, puis il y a des guerres qui se passent ailleurs. Alors oui, j'espère bien que les chars Leclerc, on va les donner. On va être les derniers à ne pas en donner. Mmh. Attendez, qu'est-ce que
vous
c'est
vous comprenez
ça
ces hésitations du non, président Macron?
Non, je ne les comprends pas. Monsieur Macron, il a eu plein d'hésitations. Rappelez-vous ces phrases malheureuses. Je sais parce que ma ville est jumelée avec une ville ukrainienne. Et le maire ukrainien me l'a envoyé 3 fois à la figure en disant « Quoi, il ne faut pas humilier la Russie ?» Citation de M. Macron. « Ah non, il ne faut pas mettre la Russie dans une situation difficile. » Il dit « Mais attends, qui c'est qui envahit ? Qui c'est nous qui avons envahi la Russie ou c'est la Russie qui nous envahit ?» Déjà, Il y a ce soupçon qu'on essaye malgré tout de pas, en gros, trop froisser la Russie de M. Poutine. Et en même temps, là, on hésite à donner des armes.
Mais là, on est dans la ligne rouge. Je veux dire, la co-belligérance n'est pas loin que si on envoie des chars, si on envoie des avions français.
De fait, on est co-belligérant. De fait, on l'est. Pourquoi attendez, rappelez-vous, il y a presque un an, les discussions, il fallait pas envoyer d'armes offensives. Qu'est-ce que c'est une arme offensive par
rapport à une arme inoffensive
et défensive, c'est quoi un char? Le char était offensif il y a un an, maintenant il est passé défensif. Enfin, ça n'a pas de sens.
Mais la France a peur d'entrer dans la guerre.
Oui, mais attendez, on y est dans la guerre. On y est dans la guerre. Il nous fait la guerre parce que Monsieur Poutine gagne en Ukraine, vous ne croyez pas qu'il va s'arrêter là? Enfin, comment? Enfin, je ne compare pas des situations incomparables. Enfin, avant la Deuxième Guerre mondiale, on a passé notre vie à faire des conséquences, on a eu des reculades, des concessions à Hitler en disant, attendez, si on lui donne la Tchécoslovaquie, il ne va pas nous emmerder avec le reste. Si on lui fait ça, il ne va pas nous emmerder avec le reste. Il ne va pas aller plus loin. Et il est allé toujours plus loin. On est dans une logique folle du régime russe. Aujourd'hui, perdre en Ukraine, mais c'est la porte ouverte à quelque chose dont on ne mesure pas ce que c'est. Moi, je suis toujours étonné pour ça. Regarde, on a beaucoup parlé de la retraite, à juste raison. On parlera moins de l'Ukraine. Est-ce que dans 20 ans ou 30 ans, un historien dira, regardez, il ne se rendait pas compte au même moment que le vrai combat, le vrai problème, la vraie question sur l'avenir de leur pays, les Français, ça se passait en Ukraine. Peut-être qu'on en est dans cette situation.
Donc il faut agir là, maintenant.
Mais bien sûr, tout de suite. Tout de suite.
Bon, c'était tout à l'heure chez Laurence Ferrari. Nous avons écouté en longueur ce que dit Robert Ménard. Propos très inquiétant, bien sûr. Est-ce que vous partagez son analyse, Régis Le Sommier? Je rappelle que vous arrivez d'Ukraine.
Je suis assez... moi, je viens de passer, en effet, près de 10 jours. Alors, j'étais... en avril, j'avais été côté ukrainien. Là, j'étais avec les troupes russes. Deux enseignements. Ils sont absolument déterminés. Ils ont énormément d'armes. Énormément. Il y a des chars. Vous pouvez me laisser terminer, s'il vous plaît? Merci.
Je pose une question, les Russes ou les Ukrainiens?
Les deux, mais en tout cas les Russes, on avait dit, j'ai entendu sur des plateaux plusieurs fois, qu'ils manquaient de munitions, que les troupes étaient démoralisées. Non, le discours de Poutine, il marche à fond avec ses troupes, en tout cas. Moi, j'ai passé du temps avec ses soldats. L'écho, on en parlait hier soir, de la Seconde Guerre mondiale est permanent. C'est-à-dire, c'est une sorte de forme structurante. C'est-à-dire qu'ils vivent la guerre de leur grand-père, finalement. Et c'est peut-être quelque chose que pendant des années, on a un peu ignoré. Mais en tout cas, chez eux, c'est extrêmement fort. Ils sont absolument déterminés et c'est un enfer. Ce que je veux dire, c'est quand j'entends des propos comme celui de M. Ménard nous dire « on va y aller, on va continuer », moi, je n'ai pas envie qu'on vive en France que j'ai vécu pendant 10 jours. C'est-à-dire, vous êtes sur une ligne de front, c'est Verdun. Quand vous dormez, vous êtes réveillé par des obus parce que votre fenêtre a été soufflée. Donc du coup, vous êtes en train de calfeutrer la fenêtre parce qu'il fait moins 15 dehors. Donc c'est des gens... Ça, c'est ce que j'ai vécu à mon petit niveau pendant quelques jours avec eux. Si vous voulez, ces gens-là vivent ça en permanence. On est arrivé la dernière journée, dimanche. Dimanche, on était sur un poste avancé. Vraiment sur la ligne de front. Le soldat, le sergent qui nous recueille à ce moment-là, parce qu'on est obligé de courir pour aller dans cette position, nous explique que ce matin...
Là, vous étiez avec les Russes. Hein.
J'étais avec les Russes. Il nous explique que ce matin, ils ont perdu 3 hommes. Les 3 hommes, ils sont là dans le truc. Il nous dit on peut pas aller les récupérer parce que ça tire trop, vous comprenez? Et en effet, on est dans la ligne de mire d'un char ukrainien qui est à 500 mètres en face. Donc on est en train de se calfeutrer dans une grange. Ce sergent me dit ça et je lui dis mais j'imagine qu'à un moment vous faites des trêves pour récupérer vos hommes. Moi j'ai déjà vu ça en Syrie, même avec des djihadistes, l'armée d'Assad qui dit bon bah voilà, on va mettre les hommes qui sont morts et vous allez les récupérer. Là il me dit non, il y a pas de trêve. Il n'y a jamais de trêve, il n'y a jamais d'accord. Il y a juste un petit soupçon d'humanité qui arrive sur le coup de midi et demi. Tout à coup, les bombardements se calment un petit peu. Et je lui dis, mais c'est parce que c'est la pause déj, vous faites un... Il me dit, oui, effectivement. Il me dit, mais en gros, faut pas le dire à nos responsables. Enfin, en gros, c'est un truc qu'on a décidé sans se parler.
Vous étiez où ?
J'étais dans la zone de Kremina, Zlatovo, qui est au nord de Bakhmout, en fait. C'est donc la lutte pour le contrôle des axes qui vont vers Bakhmout. Pour expliquer, Bakhmout, c'est la ligne de vie vers Kramatorsk, vers Sloviansk, qui sont les deux dernières grosses villes tenues par les Ukrainiens. C'est l'une des parties du front les plus disputées actuellement. Et ce sont des duels d'artillerie nuit et jour, avec du 220, du 300 mm, des missiles. Et alors attention, parce qu'on parle des armes occidentales là, mais dans ce coin-là, les armes, même du côté ukrainien, les armes occidentales n'arrivent pas. Il n'y a pas de missiles à Mars, c'est du matériel russe contre du matériel russe.
Mais pourquoi vous ne partagez pas l'analyse de Robert Ménard qui dit qu'il faut combattre Poutine et aller jusqu'au bout parce qu'il nous fait la guerre et si on ne l'arrête pas... Après, ce sera nous, la prochaine cible.
Mais c'est au début. Ce que je veux dire, c'est au début qu'il aurait fallu armer les Ukrainiens. S'il fallait que les Ukrainiens gagnent, il fallait leur donner des armes lourdes dès le début. Militairement, ça a été dit d'ailleurs par certains analystes, on leur a filé des missiles Enlo, des missiles Javelin. Au départ, c'est des missiles comme des bazookas ou des roquettes portatives personnelles qui permettent en effet...
Mais alors maintenant, par rapport à cette inquiétude que nous avons tous et que nous avons plus... encore ce matin, avec ces livraisons d'armes massives.
Oui. Mais ce que je veux dire, ce qu'il faut savoir, c'est au niveau international, est-ce qu'on est dans la perspective d'une troisième guerre mondiale ou est-ce qu'on veut que l'Ukraine fasse la guerre pour nous ? C'est ça la vraie question. Parce que les tanks, c'est très bien. Le Léopard 2, le Abrams, si vous n'avez pas la maintenance derrière, si vous n'avez pas... D'ailleurs, le Abrams, il marche au kérosène. Ça va être difficile de trouver du kérosène en Ukraine. Les Américains vont devoir amener toute l'infrastructure en plus. Donc, il va forcément... Vous comprenez que entre cette zone que je vous décris et la frontière polonaise, il y a 3000 kilomètres. Donc la ligne de vie, elle est énorme. Donc si vous voulez, pour acheminer sur le front ces équipements, il va falloir très longtemps, il va falloir former les hommes. Les Américains, on pense que ça va être, en gros, dans un an, il y aura des Abrams. Donc c'est pas tout de suite. Et là, actuellement, ce que moi j'ai vu, c'est que les Russes commencent à grignoter, ils recommencent à avancer. Ils sont hier entrés dans la ville d'Ugledar, qui est une sorte de verrou au sud, qui est en fait juste à côté de Donetsk, qui tient depuis des années. Donc ils sont rentrés dans cette ville. Ils ont repris une quarantaine de villages du côté de Zaporijja. Zaporijja pourrait être le front vers lequel les Ukrainiens pourraient... Là, il y a des signes de faiblesse des Russes de ce côté-là. Mais là, actuellement, ils sont à l'offensive. Et donc, ce n'est pas une offensive généralisée, ils grignotent. Et pour revenir à ce que vient de dire Robert Ménard, est-ce qu'on veut risquer, c'est la vraie question, est-ce qu'on est prêt à négocier pour le Donbass? Parce que idéalement, franchement, c'est de se dire, ce Donbass, quand on entend d'un côté les extrémistes russes parler d'envahir Kiev, et puis les proches de Zelensky parfois exaltés qui disent on va reconquérir l'intégralité des frontières, depuis 2014, ce pays-là est divisé. Donc il n'y a plus rien dans le Donbass russe.
Alors, j'entends, mais quelle est votre analyse et comment vous voyez évoluer les choses? J'allais dire, qu'est-ce que vous préconisez?
Moi, ce que je vois, c'est que c'est soit on fait la guerre aux Russes, mais dans ce cas-là, on y va. C'est-à-dire, on a des leaders comme Churchill, on a des leaders comme...
Solution, l'écarte. Ben, non, l'Occident ne va pas déclarer la guerre à la Russie.
Oui, mais Joe Biden fait ce que font souvent les Américains, c'est-à-dire des guerres par procuration. C'est-à-dire des guerres en engageant les Ukrainiens, c'est-à-dire mourir pour la liberté, mourir pour la démocratie.
D'accord, mais on va pas faire la guerre. Emmanuel Macron va pas faire la guerre à Vladimir Poutine, on va pas déclarer la guerre à la Russie.
Je pense, d'une certaine façon, je pense que les Russes aujourd'hui dans une perspective pas de fuite en avant, parce qu'ils savent qu'ils ont une partie du monde avec eux. Ils savent que les Chinois n'ont pas varié, ils savent que les Indiens sont là, ils savent qu'une partie des parties...
Donc je repose ma question, votre analyse.
Analyse ferait que...
Va-t-il se passer selon vous les prochains mois?
Il faudrait que du côté américain, il y ait le mot paix, le mot négociation. Il existe ce mot. Ce mot, il a été prononcé, mais par le général Milley, par des généraux du Pentagone, jamais par des civils. Vous écoutez Anthony Blinken, qui est censé être le chef de la diplomatie américaine, jamais il ne prononce ces mots. C'est les Américains qui ont la clé de ce conflit.
Le général Clermont vous écoute. Alors, je comprends que Philippe Guibert ou Olivier D'Artigol aient une analyse sur ce sujet, mais le général Clermont ou Régis Le Sommier, évidemment, vous êtes en prise directe avec cela. Donc, je veux entendre le général Clermont par rapport à tout ce qui vient d'être dit. Quels sont les points ou d'accord
d'accord ou de désaccord que vous avez eu à la fois avec Robert Ménard, à la fois avec Régis Sommier. Et que pouvez-vous nous dire ?
Alors peut-être parler du risque d'escalade. Moi, en général, j'essaie de regarder le rapport de force. Hein. Je ne fais pas de jugement de valeur. Je regarde le rapport de force et en fonction des objectifs des uns et des autres. Aujourd'hui, la stratégie des Ukrainiens, c'est de vouloir récupérer la totalité de l'Ukraine. Pour ça, il faut chasser les Russes. Les Occidentaux ont décidé de soutenir la stratégie des Ukrainiens. Les Ukrainiens, aujourd'hui, dépendent quasi totalement, au moins à 80%, des armements et des munitions fournies par les Occidentaux. Les Russes ont comme objectif, on ne le sait pas, mais enfin bon, ils se contentent très bien de ce qu'ils ont, mais ils peuvent également pousser, repartir vers Kiev et repartir vers Odessa, c'est aussi possible. Donc on est en fait dans une phase dans laquelle on prépare une nouvelle bataille. Tout le monde a compris que cette bataille interviendra au début du printemps, lorsque les routes seront praticables et que les deux belligérants, les deux camps, auront amassé suffisamment d'armement pour estimer qu'ils peuvent gagner l'offensive. Donc aujourd'hui, on est dans cette stratégie vis-à-vis de l'Ukraine. Alors c'est plus un engrenage qu'une escalade. Je vais revenir sur un point que je pense important, parce qu'en fait, il est confirmé dans l'interview que donne le ministre de la Défense ukrainien dans le Figaro d'aujourd'hui. C'est la question des armements offensifs contre les armements défensifs. Alors peut-être que la définition a changé au fil des mois pour les Occidentaux, mais aujourd'hui, c'est tout à fait clair. On va prendre l'exemple d'un char Léopard 2. Un char Léopard 2 allemand opéré par des Ukrainiens. Si ce char détruit un char russe dans le Donbass, c'est un armement défensif. Si le même char pousse plus loin, traverse le Donbass et va détruire un char russe de l'autre côté de la frontière, c'est un armement offensif. La limite que les Occidentaux ont mis à la livraison et à l'utilisation des armements par les Ukrainiens, c'est de ne pas frapper en dehors de l'Ukraine, tant que le conflit restera à l'intérieur de l'Ukraine. Aussi sanglant soit-il, aussi dur soit-il, aussi long soit-il, les risques d'escalade, c'est-à-dire de Troisième Guerre mondiale, sont assez limités parce que c'est ni l'intérêt des Américains, ni celui de l'OTAN, ni celui des Russes. Donc la question est vraiment de savoir est-ce que les Ukrainiens peuvent réussir à vaincre l'armée russe en se contentant de frapper les troupes russes à l'intérieur de l'Ukraine. La réponse est non. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, le ministre de la Défense également demande des missiles de longue portée. Il faut, pour gagner la guerre en Ukraine pour les Ukrainiens, il faut qu'ils frappent un certain nombre de dispositifs russes en Russie. Ils ont commencé à le faire, et le ministre de la Défense, je reviens à l'interview, rappelle qu'ils ne l'ont pas fait avec du matériel occidental. Toutes les frappes en Russie, dans la profondeur ou à la frontière ou en Crimée, ont été effectuées avec des armes ukrainiennes. Donc la question, c'est qu'à un moment donné du conflit, les Ukrainiens pourraient être amenés à poser une question très simple aux Occidentaux. Vous voulez qu'on gagne la guerre ? On ne peut pas gagner la guerre si on ne frappe pas les forces russes en Russie. Donnez-nous l'autorisation de frapper les forces russes.
C'est vrai que votre analyse est claire. J'imagine que vous la partagez.
C'est tout à fait vrai. Je rajouterai une dernière chose par rapport à l'époque, la période du retrait de Kherson ou des offensives à Kharkiv fin septembre. C'est que les Russes se sont bunkérisés. C'est-à-dire ils sont retranchés, c'est-à-dire que les Ukrainiens vont devoir payer très cher chaque kilomètre carré d'Ukraine repris. Ils ont installé des positions défensives. Là, actuellement, ils sont dans une forme de grignotage. Il n'y a pas d'offensive généralisée des Russes sur le front, mais ils ont installé ce qu'on appelle partout des dents de dragon, c'est des systèmes défensifs anti-chars. Ils ont mis des tranchées partout et surtout ils sont devenus experts dans le maniement des drones. C'est-à-dire que à une époque on disait l'arme technologique elle est du côté des Ukrainiens, les Ukrainiens avec l'armement de l'OTAN sont très très bons, etc. Aujourd'hui, dans la cathédrale militaire qui est la tranchée, le drone c'est la clé de voûte. La clé de voûte qui regarde tout, qui transmet les positions aux pièces d'artillerie pour pouvoir traiter les objectifs. Et chacun fait ça. Et les Russes envoient parfois plusieurs drones qui se répercutent dans un bunker. Et dans ce bunker, il y a quelqu'un qui envoie les positions. Donc c'est comme ça que se fait la guerre, si vous voulez. Donc c'est une guerre à la fois ultra technologique et ultra barbare.
Je vous propose d'écouter quand même deux, trois choses. D'abord, Zelensky, parce qu'on ne parle jamais de Zelensky, ou en tout cas, c'est toujours délicat, parce que c'est le chef d'un pays qui est agressé. Mais c'est vrai que, si je voulais résumer les choses, je dirais qu'à peine a-t-il eu les chars, qu'il demande les missiles longue portée. Oui.
Et les avions.
Donc forcément, on peut avoir une inquiétude ici, et je traduis cette inquiétude.
Il a raison, quelque part, puisque les chars ne vont pas changer la donne.
Non, mais il défend ses intérêts.
Il défend ses intérêts.
Il faut que ce soit couplé avec des appuis aériens. Il faut que ce soit couplé avec du missile.
Mais est-ce que ce sont les nôtres? Est-ce qu'on a le droit de poser cette question? Est-ce que ce sont les nôtres?
Et la vraie question, c'est est-ce qu'on s'engage ou pas?
Ben oui.
Ce qu'il faut bien comprendre, et on en parlait avec le général hier soir, c'est qu'on est dans un contexte où tout le monde attend la contre-attaque russe qui est préparée pour le printemps. Il ne faut jamais oublier ça dans l'analyse de l'escalade. C'est-à-dire qu'il y a une contre-offensive russe, les Russes ont subi un certain nombre de revers militaires depuis l'automne, et tout le monde sait qu'ils préparent une contre-offensive sur fond de mobilisation de leurs troupes et de leur matériel. Et donc il faut comprendre ce dont on parle aujourd'hui, le risque de guerre mondiale ou l'escalade, par rapport à cette offensive russe. J'ajoute juste un point. Poutine aurait pu dire, là, écoutez, moi je tiens 15% du territoire russe. Comme le dit Régis Le Sommier,
on ne peut pas faire.
Pascal, on peut pas faire.
Poutine est un fou, et vous le savez, il ira jusqu'au bout.
Et donc, alors, comment on fait?
Et bien, justement, je vous pose la question.
Comment on fait? Poutine mener sa contre-offensive.
Mais c'est une question que chacun.
Battre l'Ukraine, parce que c'est ça qui est en jeu.
C'est une question. Répondez à cette question. Vous avez des enfants, vous êtes.
Après tout ce qu'on a fait, on ne peut pas laisser l'Ukraine. Permettez-moi de terminer. Mais on ne peut pas laisser l'Ukraine face à la contre-offensive russe sans défense.
Chacun en conscience répond à cette question. Vous êtes français, vous avez un rapport à la France, vous avez une famille, vous avez des familles.
Mais on ne peut pas oublier la contre-offensive russe dans l'analyse de l'escalade.
Je ne veux même pas rentrer là-dedans. Chacun répond en conscience à ça.
Deux choses très rapides. Ce qu'il y a de très intéressant dans le témoignage du Régis Le Sommier, c'est qu'il nous donne l'état d'esprit des troupes russes.
Oui.
Qui ne sont absolument pas dans un climat où la détermination ne serait plus là. Première chose. Deuxième chose, il faut arrêter avec le risque d'escalade. Nous sommes d'ores et déjà dans l'escalade après les annonces de Berlin, de Biden et ce qui va suivre. L'erreur qu'on a pu faire dans nos commentaires occidentaux, c'est qu'on ne s'est jamais mis dans la tête de Poutine et de la manière dont il a mené ce qu'il fait là. Il a annoncé depuis longtemps. Sur le thème de la guerre patriotique, sur le thème de la Grande-Russie. Et donc, par rapport à cette détermination-là, j'ai le sentiment que notre réponse a été, au début, un non-choix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'aide à l'Ukraine au moment de l'invasion telle qu'elle aurait pu être. Et aujourd'hui, l'escalade, nous y sommes, et je sens que la position française va accompagner ce que fait le monde occidental.
Volodymyr Zelensky, deux secondes, juste, je vous donne la parole tout de suite. Merci Joe Biden, a-t-il dit, pour la décision puissante de fournir des chars Abrams à notre pays, même si vous m'avez dit que c'était dans un an ils seront opérationnels.
C'est-à-dire que le problème du char Abrams, c'est que c'est quelque chose qui fait 70 tonnes, qui demande un maniement, une expertise.
D'accord. Donc, un an. Bon, c'est une étape importante sur le chemin de la victoire. Aujourd'hui, le monde libre.
Enfin, ça va être plus rapide, les Léopard 2, mais ça va prendre un petit peu.
Aujourd'hui, le monde libre est uni comme jamais auparavant pour un objectif commun, la libération de l'Ukraine. Gérard Carrero, d'abord, est-ce que vous êtes inquiet? Oui. Vous avez un peu d'expérience
sur ce monde. Je suis inquiet pour une raison fondamentale. Je pense que la Troisième Guerre mondiale, on dit attention, on va tomber dans. On est dans une troisième forme. Ce n'est pas la Troisième Guerre mondiale à l'identique. D'ailleurs, les grandes guerres ne sont jamais à l'identique. La deuxième n'était pas à l'identique de la première. Pourquoi je dis que nous sommes entrés dans une Troisième Guerre mondiale? C'est une Troisième Guerre mondiale rampante. Elle concerne de plus en plus de pays. On voit ça plutôt du côté, puisque nous sommes de ce côté-ci, du côté des Occidentaux, et on voit effectivement toutes les nations de l'OTAN qui sont derrière les États-Unis globalement. On ne voit pas le reste du monde qui a effectivement, de toute façon, des intérêts différents. Et alors, ils ne le manifestent pas par des chars et des avions, mais c'est donc une véritable guerre. Et qu'est-ce qui se passe réellement? Moi, j'étais aux États-Unis cet été, j'ai rencontré des gens qui étaient très, il se trouve comme ça, par côté familial, très proches des militaires du Pentagone américain. Et ils disaient déjà, et je ne les croyais pas, je parle du mois de juillet-août, ils ne croyaient pas à ce moment-là, effectivement, que la guerre deviendrait une guerre. Ils ne pensaient pas. Et puis à un moment donné, ils ont vu l'état de l'armée russe, l'avantage technologique des Américains, et ils se sont dit, au fond, maintenant, arrivé à un certain moment, alors je ne sais pas comment le situer, peut-être que Régis le sommier pourrait le situer. Il y a un moment donné sur le terrain où on a senti que la prépondérance américaine. Aujourd'hui, les Américains, je termine là-dessus parce que c'est là-dessus que je voulais en arriver. Aujourd'hui, les Américains se disent nous avons un adversaire en puissance, un ennemi en puissance qui est la Chine. Nous ne pouvons pas nous battre sur deux fronts. Je pense qu'il faut, dans un premier temps, ils se disent on va taper les Russes et on va les bloquer pour 20 ans. Et après, on verra ce qu'on peut faire avec les Chinois. Ça, c'est un argument américain. C'est un argument du Pentagone américain.
Régis, restez avec nous. On marque une pause. Votre témoignage nous intéresse. Je rappelle que vous revenez de 3 semaines. Et on sent, d'ailleurs, dans la couleur de votre voix, on sent que vous étiez évidemment présent là-bas et combien vous vivez forcément les choses différentes. Oui. Différemment de nous.
C'est un peu étrange de te retrouver sur un plateau.
Mais bien sûr. Mais
comme ça, je suis là pour témoigner. Donc,
là, je comprends.
C'est mon métier.
Mais exactement. Mais votre témoignage de ce fait a une force importante. Je remercie le général Clermont. On marque une pause et on continue avec Régis Le Sommier. À tout de suite. Régis Le Sommier est avec nous ce matin et on va continuer à écouter son témoignage. Mais Audrey Berthaud nous rappelle les titres à 9h30.
Cette attaque à la machette hier à Algeciras dans le sud de l'Espagne. Un sacristain a été tué et un prêtre blessé la veille. Les habitants vont observer une journée de deuil. Ils devraient également se rassembler devant les églises touchées. Les autorités espagnoles ont ouvert une enquête pour terrorisme. L'auteur présumé a été arrêté. Les raffineries sont en grève aujourd'hui et demain avant la journée nationale du 31 janvier contre la réforme des retraites. La CGT appelle à reprendre la grève dans les raffineries, les centrales électriques, mais également les ports et les docks. Mardi prochain, la grève touchera tous les secteurs. Et le franco-syrien Riyad Satouf, couronné au festival d'Angoulême, l'auteur de L'Arabe du futur, a remporté la plus haute récompense du monde de la bande dessinée hier. Il a rendu hommage à sa grand-mère maternelle, celle qui a toujours cru en son talent. Le festival de la BD ouvre aujourd'hui au public.
Et ce sommier, vous êtes rentré, vous étiez sur la ligne de front, vous êtes rentré quand ?
Je suis rentré mardi.
Bon, et vous étiez... Alors, vous viviez où ? Vous étiez où ? Vous êtes resté combien de jours d'abord ?
Et je suis resté une dizaine de jours.
Et dans ces cas-là, vous êtes où précisément ? Vous vivez comment ?
Alors, je vis, si vous voulez, on intègre... Il y a plusieurs sas, en fait. Il y a des bases arrière au début... vous faites la jonction en fait avec une personne qui est en charge de vous accueillir dans une sorte dans le PC de la division. En l'occurrence, il s'agissait d'une unité qui s'appelle la brigade des vétérans. Et je découvre d'ailleurs dès le premier soir que cette brigade des vétérans, en fait, elle est composée essentiellement de soldats qui vont de 18 à 62 ans. Et qui sont des gens qui ont une expérience militaire, qui ont fait l'Afghanistan, qui ont fait la Tchétchénie, et qui viennent en fait encadrer les fameux 300 000 conscrits que Poutine a décrété, a réquisitionné en septembre. Donc en fait, ça va être un mélange. Le premier jour, en fait, on va voir des jeunes à l'exercice avec des vieux qui s'occupent d'eux et qui les forment. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que cette unité, donc, elle fait des rotations avec le front, elle part 10 jours au front et 10 jours à l'arrière, parce que c'est tellement intense, il y a vraiment ça c'est pris en compte. En revanche, entre eux, ils appellent leur propre brigade, en russe c'est CVK, et en fait ça veut dire SMP, ça veut dire Société Militaire Privée, comme Wagner. Donc en fait, c'est comme Wagner. Et ce principe de la société militaire privée qui travaille en combinaison, là en l'occurrence c'était avec la 16e brigade blindée, c'est-à-dire une unité régulière de l'armée russe, en fait c'est une guerre où des éléments, je dirais, qui ont de l'expérience, sont injectés au front. Voilà comment bon,
Vous vivez avec eux, là, pendant
je vis avec
vous
eux.
Vous dormez avec eux, vous mangez avec eux. Des questions, d'ailleurs, qu'on ne pose peut-être pas forcément dans ces cas-là, mais est-ce que le ravitaillement se fait de manière convenable ? Est-ce qu'il n'y a pas de soucis ? Je parle de nourriture, des choses comme ça. Est-ce que l'infrastructure suit ?
Alors, l'infrastructure suit, le ravitaillement est fait. Il y a juste le souci des lignes de front, où là, l'activité que je vous décrivais tout à l'heure est tellement intense en termes d'artillerie, surtout, c'est vraiment des duels d'artillerie absolument gigantesques et en permanence, de nuit, de jour.
Et vous avez vu des gens partir et ne pas revenir ?
J'ai pas vu de gens partir et pas revenir. En tout cas, tous ceux avec qui j'étais ont été dans un état. Vous savez, il y a quelque chose d'assez irrationnel dans les comportements sur la ligne de front. Vous avez des soldats qui sont parfois très émotifs, très qui rient alors qu'ils devraient pas rire, avec une espèce de sens du fatalisme aussi. À force de vivre sous les bombes, on finit par adopter des attitudes un peu superstitieuses aussi. Et alors pour ce qui est du ravitaillement, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en dépit de l'intensité, en dépit du fait qu'il n'y a aucun accord entre les deux belligérants, j'expliquais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'accord pour l'échange de morts, mais vers midi et demi, il est d'usage d'arrêter un peu les bombardements. Et il est d'usage aussi, vous parlez du ravitaillement, j'y viens, d'arrêter un peu les bombardements au début de la soirée, parce que c'est là que le ravitaillement arrive, et des deux côtés. Et les soldats, un peu à la façon, vous savez, le fameux film Silent Night, enfin le livre sur la nuit de Noël, une sorte de trêve. Là, c'est les soldats un peu qui ont décidé entre eux. Les chefs sont pas au courant, en tout cas, il y a une tolérance parce qu'il y a quand même une humanité.
Vous étiez avec les Russes, vous étiez avec les Russes, on vous reproche parfois d'avoir une position pro-russe sur ce conflit.
Moi, on me reproche cette. Oui, je trouve ça d'ailleurs complètement absurde parce que il est nécessaire d'avoir des correspondants qui vont côté russe. Et moi, j'ai des collègues avec qui j'ai couvert l'Irak, l'Afghanistan, qui sont du côté ukrainien. D'ailleurs, en échange, c'est intéressant parce que parfois, en échange, j'ai eu un échange de mails avec Dorothée Olyérique de France 2, qui elle était à Bakhmout côté. Côté ukrainien et on fait très attention de ne pas le faire quand on est là-bas parce que sinon on peut être qualifié d'espionnage, etc. Donc il faut faire très très attention, mais entre nous on compare nos expériences et je pense que c'est absolument indispensable et la question d'être pro-russe, non, c'est pas vrai, parce que tout simplement je suis allé côté ukrainien en avril, j'ai accompagné des volontaires français qui souhaitait rejoindre l'armée ukrainienne. Donc, j'y ai passé 10 jours. Donc, je suis allé de l'autre côté. C'est ce qui, pour moi, est toujours, pour un journaliste, c'est toujours intéressant de pouvoir aller d'un côté et ensuite aller de l'autre.
Dernière chose. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête des pays occidentaux n'ont pas connu la guerre.
Oui.
Chirac avait connu la guerre. Joe Biden, d'ailleurs, l'a connu. Mais Emmanuel Macron ne l'a pas connu, évidemment. Bon. Est-ce qu'à votre avis, ça modifie leur rapport à ce conflit?
Et moi, je pense que oui. Je pourrais citer également Colin Powell aux États-Unis. Vous vous souvenez, quand la guerre en Irak a été déclenchée, Colin Powell, je raconte cette anecdote parce qu'elle est très, très révélatrice. Colin Powell a connu le Vietnam. Et c'était quelqu'un qui est un homme donc qui n'avait pas envie d'aller en guerre. Il faisait partie de l'administration Bush. Et juste à la veille du conflit, George Bush l'a invité dans son bureau et lui a dit « Dis-moi vraiment ce que tu penses. On va partir en guerre, mais dis-moi ce que tu penses, Colin. » Et Colin lui a dit « C'est la règle du magasin de porcelaine. Tu casses quelque chose, il t'appartient et c'est toi qui le payes. » Voilà ce qu'il a dit à propos de l'Irak. C'est-à-dire qu'il savait qu'à partir du moment où on met le pied dans le conflit, on a très très peu de chances d'en ressortir et on met le pied dans un engrenage et on en prend pour des années. Et cette chose nous appartient. Et la vraie question aujourd'hui, en regard de ces leaders occidentaux qui n'ont pas connu la guerre, c'est est-ce qu'on veut que l'Ukraine nous appartienne? Est-ce qu'on veut que ce conflit soit le nôtre? C'est ça, c'est toute la question. Et est-ce qu'on aura, si tel est le cas, des leaders à la hauteur d'Eisenhower, de Churchill, qui seront capables de faire la guerre à Poutine et de la gagner?
Bon, en tout cas, on voulait vous écouter ce matin parce que votre témoignage est fort d'abord et puis il est important et puis il traduit notre inquiétude, disons-le, ce matin avec ce sentiment d'escalade. On referme le dossier de l'Ukraine, sauf si l'un ou les autres ont des...
Oui, moi je veux juste dire un mot. Oui. C'est effrayant de penser qu'on entend aujourd'hui que des voix qui préconisent davantage de livraison d'armes.
Non, Arnaud Clarcel, par exemple, dit régulièrement le contraire. Mais, et d'ailleurs,
disons, alors,
ça sera intéressant de l'écouter, d'ailleurs, Arnaud Clarcel.
98% des voix, comme celle de Ménard ce matin, de Robert Ménard, sont des voix, disons, de va-t-en-guerre.
Oui, dans l'espace médiatique. Parce que quand vous allez, j'ai envie de dire, quand vous allez parler avec les uns et les autres, j'allais dire, quand vous les écoutez au bureau, quand vous les écoutez dans des dîners, etc., beaucoup disent... Attention, ce n'est pas notre guerre.
Oui, et mais sauf que...
Je n'ai pas envie de voir la France... alors, évidemment...
Sauf que
c'est pas très chic de
c'est
dire
les prises
ça,
de position officielles qui
pas très chic de dire
et qui atteignent l'opinion. Et par exemple, la position française, qui nous intéresse au premier plan quand même, la position du président Macron...
Elle est plus modérée qu'elle ne l'était.
Elle était beaucoup plus modérée et beaucoup plus, je dirais, gaullienne au début de la guerre. Oui. Elle a évolué. Dans un premier temps, il a fait des corrections. Aujourd'hui, on est quasiment...
Non, parce qu'il a dit qu'il ne faut pas humilier la Russie non plus. Comme non, c'est ça, c'est toujours difficile avec Emmanuel Macron de savoir...
Il a fait du conflit, à partir d'il y a plusieurs mois maintenant, il a commencé à expliquer que nous entrions dans une économie de guerre. D'ailleurs, il y a eu des annonces récentes. On a quasiment doublé le budget consacré aux armées en 10 ans. Imaginez-vous bien, on parle de 413 milliards d'euros qui seront consacrés.
Moi, j'ai eu le sentiment qu'il était très anti-Poutine au début, et qu'il s'est rapproché de Poutine ensuite, et que maintenant, il s'en éloigne peut-être encore.
Il ne parle plus beaucoup, effectivement. Depuis,
voilà, donc j'ai l'impression que...
Il avait tenté une guerre.
Il avait tenté
de faire cette carte de la médiation.
Mais il n'y a plus de carte française.
Après, ce qui est sûr, c'est que
Macron a tenté beaucoup de choses avec Poutine. Hein. Le problème, c'est qu'on aimerait tous avoir la paix. Moi, je ne sais pas s'il y a tant de va-t-en-guerre que ça. Le problème, c'est que pour faire la paix, il faut une négociation avec Poutine. Donc, il faut que Poutine accepte. Non,
mais vous pouvez tout simplement être. Pardonnez-moi, vous pouvez tout simplement être. Être neutre.
C'est absolument pas le cas.
Non, mais vous pourriez avoir une position en disant, moi, je suis neutre.
Non, on peut pas être neutre.
Bah, la logique des Occidentaux, quand Emmanuel Macron a renvoyé Joe Biden, par exemple,
il y a plein de guerres dans le monde entier dans lesquelles nous n'entrons pas.
Oui, mais enfin là, c'est à quelques milliers de kilomètres de chez nous.
Mais j'ai bien compris votre position.
La question est d'être neutre, c'est-à-dire de savoir si cette guerre est la nôtre ou pas.
On laisse tomber l'Ukraine.
Non, mais...
Alors ça, c'est symptomatique.
Mais non, mais...
Alors ça... Mais non, mais c'est symptomatique de la pensée binaire dans laquelle on a régressé. À partir du moment où on ose poser la question en tant que citoyen non expert, et c'est ce que je suis par rapport à l'Ukraine, de à qui profite le crime ? Quels sont les bénéfices secondaires des États-Unis ? N'est-on pas en train d'engloutir l'intégralité de l'économie européenne, à commencer par l'économie française ? Pour quel résultat ? On est un horrible pro-Poutine. C'est-à-dire que dès qu'on pose une question, en fait... On est fasciste avec des raisonnements.
Je retiens ce qu'a dit Régis.
C'est impossible de poser une question sur ce sujet. En fait, russe ou virus, c'est le même combat. Il y a la même pensée binaire.
On est du
mauvais côté.
Marie-Estelle, vous n'êtes pas la seule à être subtile et les autres ne sont pas binaires. Pardon.
Bon. C'est un peu manichéen, la façon dont tu raisonnes, je trouve.
Je retiens ce qu'a dit Régis Le Sommier, cette propension des États-Unis à faire la guerre par les autres. C'est une phrase quand même importante.
Ils ont beaucoup fait la guerre eux-mêmes, les États-Unis.
Oui.
La guerre par procuration.
À qui profite la guerre ?
Leur problème, c'est qu'ils sont engagés sur beaucoup de théâtres d'opérations et qu'ils ont souvent perdu.
À qui profite la guerre ? Est-ce qu'on peut poser cette question ?
Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Enfin, à qui profite le crime ? Le crime, il a été commis par Poutine.
Mais bien sûr. Mais personne n'en dit ce qu'on
peut. Est-ce qu'on peut être une solidarité entière aux Ukrainiens tout en mettant sur la table des sujets de préoccupation et justement d'engrenage ? Oui, on peut.
Bon, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire. On a commencé par parler du massacre des chrétiens. Je voulais juste qu'on en parle parce que c'est quelque chose. Ce matin, c'est ce prêtre, ce sacristain qui a été tué en Espagne. Je suis sidéré combien l'espace médiatique en parle. Assez peu, bien évidemment, puisqu'il ne correspond pas. Il y a, comme vous le savez, les bonnes victimes et les moins bonnes victimes. Un sacristain tué en Espagne, ce n'est pas une bonne victime pour l'espace médiatique français. Donc je vous propose de voir le sujet d'Alexis Vallée et vous me direz ce que vous en pensez, Régis Le Sommier, parce que c'est un sujet que vous connaissez bien également, le massacre des chrétiens. Il y a 390 millions de chrétiens, 360 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde aujourd'hui.
L'église pleure dans le sud de l'Espagne. Cet homme a été arrêté par les forces de l'ordre, accusé d'avoir tué hier soir un sacristain et grièvement blessé un prêtre dans une attaque à la machette. Vers 19h, dans la ville d'Algeciras, située à la pointe sud de l'Espagne, l'assaillant entre dans l'église de Saint-Isidore d'Algeciras et attaque le prêtre au cou, le blessant grièvement. Il se rend ensuite dans une seconde église, à quelques minutes à pied de la précédente, à Notre-Dame de Palme. Il s'en prend cette fois au sacristain, qui décède sur place. Il s'appelait Diego Valencia. Le parquet espagnol a annoncé qu'une enquête a été ouverte pour des faits présumés de terrorisme.
Bon, c'est l'occasion de rappeler effectivement, Régis Sommier, ce que je disais tout à l'heure, l'Afghanistan, qui est le pire pays pour les chrétiens, et les chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier.
L'Afghanistan, qui est un pays que je connais bien, et en effet où il y a vraiment très très peu de chrétiens qui y sont demeurés, le problème du chrétien dans le monde, c'est que c'est à la fois la victime expiatoire facile à cibler, et aussi, je dirais, c'est un peu le canari dans la mine, qui meurt avant le coup de grisou. Parce que quand le chrétien est attaqué, en général, le pays va partir en lambeaux très rapidement. Ça a été le cas en Irak, ça a été le cas en Syrie avec les djihadistes. Dès que les chrétiens sont attaqués, en général, ça veut dire que les conditions sont là pour qu'une guerre sectaire se mette en place. Et le chrétien, malheureusement, est celui qui est souvent sans défense, celui qui est souvent là, qui essaye de se faire accepter. Vous savez, comme les juifs au Moyen-Âge ont trouvé la protection des puissants. Les chrétiens l'ont fait avec Nasser en Égypte, ils l'ont fait dans les divers régimes bassistes. Et à partir du moment où ces régimes, ces autocraties ont disparu, ils se sont retrouvés, je dirais, un peu livrés à eux-mêmes.
Alors, puisque nous parlons de la religion chrétienne, de la religion catholique, dans un entretien à l'agence Associated Press, diffusé hier mercredi, le pape François a jugé... injuste les lois qui criminalisent l'homosexualité, mais il a dit cette phrase sur laquelle je voulais avoir le sentiment d'Émeric Pourbet, que vous connaissez et qui présente notre émission En quête d'esprit le week-end. Il a dit que l'homosexualité était un péché. Et au-delà d'ailleurs de ce que dit la religion chrétienne sur l'homosexualité, toutes les religions ont un souci avec l'homosexualité. Toutes les religions. C'est intéressant d'ailleurs.
Certaines églises protestantes européennes n'ont pas ce problème.
Alors bon, hormis manifestement l'église protestante européenne, mais le catholique que vous êtes, Émeric Pourbet, lorsque vous entendez le pape dire « l'homosexualité est un péché », est-ce que vous le comprenez, parce qu'il est dans son rôle de pape, mais est-ce qu'au fond, vous vous dites qu'il a tort de dire ça ?
En fait, le pape ne fait que redire, effectivement, vous l'avez dit Pascal, ce que dit l'Église depuis toujours dans son catéchisme. Donc, c'est d'abord que l'orientation sexuelle doit être ordonnée au fait de donner la vie, et donc à la procréation, et ce, de manière naturelle. Et puis par ailleurs, effectivement, c'est la deuxième partie de son propos, qu'il ne peut pas y avoir de discrimination injuste. Là aussi, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui dit ça, et le pape prend acte que les sociétés ne sont plus chrétiennes, et donc voilà, c'est pour ça qu'il fait la distinction. Par ailleurs, je pense que pour bien comprendre aussi ce que dit l'Église sur le sujet, il faut distinguer le péché du pécheur. C'est-à-dire qu'il y a les actes homosexuels, et puis de l'autre côté, il y a les personnes, et qu'on ne peut pas, et ça c'est très important, réduire les personnes à leur activité sexuelle. D'ailleurs, l'identité sexuelle, l'orientation sexuelle ne fait pas toute l'identité de la personne.
Mais c'est quoi un péché ? Je voudrais qu'on me dise, c'est quoi un péché ?
Eh bien, un péché, c'est quelque chose qui contrevient l'amour de Dieu, l'amour créateur qui nous a créés hommes et femmes.
Et être homosexuel, c'est contrevenir à l'amour de Dieu ?
Eh bien, comme chacun, on est tous pécheurs. Je veux dire, il n'y a pas que les homosexuels qui commettent des péchés.
Vous écartez un peu.
Bien que vous puissiez dire à Pascal Pro. C'est bon.
Comment ?
C'est ce qu'il voulait dire.
Non, mais qu'on soit tous pécheurs. Non, mais...
C'est un distinguo de jésuite, quand même.
J'ai une question, parce que quand j'ai vu cette information sur le pape, j'ai pensé aux jeunes catholiques homosexuels. Sur la manière dont ils doivent prendre cette parole-là. Est-ce que ça peut provoquer comme bouleversement chez eux, comme traumatisme ?
Écoutez, encore une fois, le pape n'invente rien. Il n'a pas découvert aujourd'hui que l'homosexualité était un péché. Donc, les jeunes catholiques, ils le savent, enfin, que vous décrivez, ils le savent. Après, ça regarde la conscience de chacun. Le pape, il n'est pas là pour juger. D'ailleurs, il l'avait dit.
Qui suis-je pour juger ? Mais c'est vrai que ce mot péché...
Il le dit, puisqu'il met l'homosexualité sur le même niveau que le manque de charité. Donc, il est très modéré dans son propos.
Il faut rappeler que Jésus
dit le manque de charité et le jugement,
celui
c'est
qui
un
n'a jamais péché,
péché
jette la première pierre. Parce que l'adultère est aussi un péché dans l'Église. Mais bon, enfin, le Christ lui-même nous renvoie à notre propre conscience, en fait.
C'est toujours le problème entre l'institution temporelle et l'institution. La parole de Dieu dit que la sexualité doit être corrélée à la reproduction. Maintenant, en tant qu'institution humaine, elle évolue. Ce que certains chrétiens considèrent d'ailleurs comme anormal.
On peut dire que l'Église catholique est quand même assez conservatrice.
Toutes les religions.
Oh non, plus ou moins. Plus
mais
ou
non. Autrefois, les divorcés étaient excommuniés, ils ne pouvaient pas communier. Aujourd'hui, les divorcés vont communier.
Non.
Enfin, l'institution temporelle, elle a énormément évolué depuis Vatican II.
Sur des tas de points, l'Église catholique est beaucoup plus conservatrice que le protestantisme européen.
Non, mais il est possible que le protestantisme, mais les religions globales...
Hein, qui occupent la moitié de l'Europe.
Oui, non, mais ils sont pas donc, tous l'Église... comme ça, ils sont beaucoup plus divisés, les protestants, les catholiques, il y a une hiérarchie, c'est pyramidal.
Je ne parle pas des protestants d'outre-Atlantique.
Les presbytériens en Écosse, c'est une forme de protestantisme extrêmement dure, et l'homosexualité n'y est pas tolérée. Donc il ne faut pas dire les protestants comme si c'était tout à coup quelque chose de formidable.
Émeric, je vais remercier Émeric Pourbet. Émeric, on vous retrouve ce week-end de toute façon.
Absolument.
Avec vous connaissez déjà le programme. D'abord, je vous félicite d'avoir reçu Gad Elmaleh. On a passé lundi à des passages de Gad Elmaleh, absolument formidable, d'humanité, d'intelligence, de drôlerie, sur précisément les catholiques. Et il rapporte que les catholiques ont honte parfois d'être catholiques en France. C'est vraiment très intéressant. Vous l'aviez reçu et c'était une très belle émission. Et on vous donne donc rendez-vous ce week-end. Vous savez déjà le programme ?
Absolument, on parlera à l'occasion, vous savez, de la sortie du film « Vaincre ou mourir » sur les guerres de Vendée. Nous aurons une approche historique avec Philippe de Villiers, justement, pour savoir vraiment ce qui s'est passé, parce qu'on est dans la polémique. Mais
Il se fait détruire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire une chose qui est, je veux dire, qui a été dite d'ailleurs par François Furet et par Mona Ouzouf, il y a eu un génocide en Vendée. Voilà, des plus grands historiens l'ont dit. Eh bien, c'est contesté, comme toujours, par des historiens.
C'est vrai qu'il y a une discussion entre historiens sur le...
qu'est-ce que vous voulez que...
Vous... pas exclure la discussion.
Mais vous me sidérez. J'étais hier soir avec Gérard Leclerc et on a cette discussion. Vous voulez que je vous recite ce qu'a dit la Convention ? Détruisez la Vendée.
Oui, mais la Vendée...
Détruisez la Vendée. À la Convention, le dialogue, proclamation de la Vendée, soldats de la liberté, il faut que les brigands...
En pleine guerre extérieure. Donc il y a eu des massacres de Vendéens.
Mais c'est pas des massacres, ça s'appelle un génocide quand tu veux détruire un groupe humain de personnes. Mais effectivement, les
Nantes
gens
étaient républicaines, par exemple.
Comment ?
Nantes était républicaine, c'était dans tout l'ouest de la France, c'était le pôle de
résistance. Mais Nantes n'est pas en Vendée, cher ami.
Ouais, mais la notion de
Vendée. Il n'y a pas de ouais, Nantes n'est pas en Vendée. Si vous mettez Nantes n'est pas en Vendée.
La notion de Vendée ne correspondait pas à la limite départementale d'aujourd'hui.
Du moment où Robespierre appose sa signature sur les actes du. C'est la décision d'éradiquer complètement la Vendée, grand-père, et de les laisser sans sépulture, ce qui est encore pire.
Mais pourquoi vous contestez ça ?
Ils imposent aux habitants de ne pas leur donner de tombe.
Et parce que c'est une guerre civile, on ne peut pas admettre que c'est...
Il y a une discussion.
Mais le pire, on est parfois...
Non, mais bon,
vous soyez de gauche et personne n'attaque la République en disant cela.
Si, le but, c'est d'attaquer la République.
On peut aimer la Vendée et Clémenceau. Ils font partie du même...
C'est drôle.
Clémenceau qui disait la révolution est un bloc.
Exactement.
Oui, mais le pire, Pascal, si on prend
Gérard
Carreau. Merci, Émeric Pourbet. Merci beaucoup. Et on vous suit avec beaucoup d'intérêt. Moi, je vous écoute tous les dimanches soirs dans une des rediffusions. Donc, bon week-end à vous. Et merci pour la qualité de votre travail.
Dans cette affaire de Vendée, on l'a dit, vous l'avez dit d'ailleurs, je crois, hier ou avant-hier. Oui. L'un des pires a été le général Thurot, qui a commandé pendant plusieurs années les colonnes infernales. Oui. Cet homme a été tellement il a été loin dans l'extermination des Vendéens qu'il a été rappelé par la Convention pour justement s'expliquer. Et un homme pour qui j'ai par ailleurs, comme beaucoup de Français, une grande admiration, qui est Napoléon. Qu'est-ce qu'il a fait, Napoléon, quand il est devenu, quand il est devenu premier consul, puis empereur ? Il a nommé Thurot qui était de tomber dans l'obscurité, ambassade, oui, je te le prouverai, ambassadeur de France aux États-Unis, Thureau, le commandeur des brigades impériales, cadets, centaines de milliers.
Mais Napoléon n'avait pas énormément d'état
d'âme. C'est pas le premier criminel de guerre aussi, bon. Cyclé.
Ouais, il a été bien cyclé.
Le problème de Gérard, c'est qu'il parle pile au moment où je dois lancer la pause.
Désolé pour la pause.
Je lui donne la parole au moment où on doit lancer la pause.
Je ne dis plus rien.
On la saute. Bon, Philippe Guibert, je vous sens un peu tendu ce matin, un peu irrité. Vous n'avez pas assez dormi, j'ai l'impression. Mais on va marquer une pause. Vous allez pouvoir vous reposer. À tout de suite.
C'est moi qui l'énerve.
Et Régis Le Sommier, qui a laissé sa place à Martin Blachier, merci pour vraiment votre témoignage qui nous a beaucoup intéressé. Non, vraiment, merci. Et on a encore plein de choses à échanger et à dire vraiment. Et vous serez tout à l'heure chez Sonia Mabrouk, je crois.
Théoriquement, mais je ne sais pas si c'est confirmé, mais peut-être oui.
Eh bien, je vous le confirme.
Je souhaite.
Voilà, je pense que Sonia sera très heureuse de vous écouter. Merci en tout cas. Martin Blachier nous a rejoint. Alors, Martin, vous êtes le meilleur. Mais oui, vous êtes le meilleur, les 10 nouvelles menaces sur notre santé. Vous êtes le meilleur et moi je prends un témoin. Les gens, à chaque fois que vous venez sur ce plateau, vous nous dites sur la crise du Covid, la 9e vague, vous dites c'est pas grave, quoi, c'est pas grave, voilà ce qui va se passer, comment ça va se passer, ça va s'arrêter, ne mettez pas de masque. On vient de passer cette 9e vague sans aucune mesure. Sans aucune mesure.
Comme les précédentes, oui.
Exactement, et tout ça s'est très bien passé alors que certains voulaient nous enfermer, nous mettre le masque, enfin, toutes les sottises, notamment le professeur Jean-Bernard, célèbre, qui est ici.
Absolument pas.
Monsieur Guibert, il passe une mauvaise matinée, hein, je vous préviens, parce que j'ai deux ou trois petits tweets que je vais lui dire. À chaque fois qu'il a parlé, boum, il a été contré. Mais ça arrive.
Mais je crains d'avoir raison quand même.
Ah ben vous avez raison contre
ce
le
qui
reste.
Ne vous arrive jamais, Pascal.
Je ne cite pas les tweets désagréables. Audrey Berthaud est là, et Audrey nous rappelle les titres.
Plus de 150 000 demandes d'asile enregistrées en France l'année dernière. C'est un record. Et notre pays n'est pas le seul concerné. L'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Autriche ont enregistré plus de 100 000 demandes. Une réunion des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se tient aujourd'hui pour faire un point sur la situation. Après 17 mois d'arrêt, le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire de Civaux dans la Vienne a été reconnecté hier soir au réseau électrique. À la suite de cette découverte, des problèmes similaires avaient été détectés sur d'autres sites. 44 réacteurs sont ce jour en fonctionnement en France sur un total de 56. CAF, assurance maladie, les services publics sont difficiles à joindre selon 60 millions de consommateurs. Jusqu'à 7 appels sur 10 n'aboutissent pas. Un constat inquiétant notamment pour les 15% de Français qui n'ont pas Internet chez eux, majoritairement des personnes âgées, précaires ou étrangères et qui, face à ce parcours du combattant, renoncent parfois à leurs droits.
On va parler du livre de Martin Blachier, les 10 nouvelles menaces sur notre santé. Mais on termine juste avec les propos du pape sur l'homosexualité. Ludovine de la Rochère, que vous connaissez, qui intervient régulièrement, dit cette phrase étonnante d'ailleurs. Les homosexuels sont comme tout le monde, nous sommes tous pécheurs, comme le disent Émeric Caron. Bon,
c'est jouer avec les mots.
C'est un peu jouer avec les mots. En revanche, elle dit, les évangéliques considèrent aussi que l'homosexualité est un péché. Et ils sont une part importante des protestants en France. Philippe Guibert n'y connaît rien.
Ben oui, mais sauf qu'elle non. Elle est très gentille.
C'est une bonne journée pour Philippe.
Donc, vous étiez binaire tout à l'heure, et pour Madame de la Rochère, vous n'y connaissez rien.
Madame de la Rochère m'avait écouté. C'est très prétentieux de ma part et présomptueux. Elle a entendu que je disais des églises protestantes européennes.
Oui,
l'évangélisme qui vient d'outre-Atlantique est beaucoup plus conservateur, c'est tout à fait
d'accord.
Exact.
Non, mais de toute façon, d'une manière générale, les
religions. Mais moi, je suis binaire, donc je.
Non,
mais. Ça l'a touché.
Ah, ça l'a touché, là, vous l'avez.
Tu es de mauvaise foi, tu avais envie de le prendre personnellement.
Oh là là. Mais je suis en plus de mauvaise foi, évidemment.
Qui a régressé à quelque chose de très manichéen.
Et de mauvaise foi.
Un peu comme l'intelligence artificielle, 0-1, et on a du mal à mettre de la nuance, je trouve, dans la pensée aujourd'hui sur beaucoup de sujets.
Bon, mais je prends la leçon tous les matins avec vous, et j'en suis ravi, parce que c'est un progrès intellectuel.
Tu sors du plateau meilleur que.
Mais bien entendu, enrichi, beaucoup plus cultivé.
Moins ignorant.
Et
moins bête, au fond. Et moins bête.
Grâce à Marie-Estelle.
Grâce à Marie-Estelle.
Exactement.
Grâce à vous.
Grâce à Pascal. Grâce à Père Pascal.
Voilà. Bon.
Je vous écoute, le maître.
Bon, je vous en prie. La retraite, y aura-t-il blocage pour ou contre? Monsieur Farandou, qui est donc. Qui ne s'est toujours pas exprimé sur le petit chat, hein. Ça ne l'intéresse pas, les chats. Mais oui,
Non, mais Pascal.
Bah, il n'y a pas de Pascal.
Le petit chat est mort.
Franchement, monsieur Farran, du président de la SNCF, on tue des chats sur,
sur la voie
sa voix. Ouais. Je n'ai pas vu un tweet de monsieur Farandou.
Et le chat avait un titre transport.
Oui, non, mais non. Bon. Oui. Mais peu importe. Oui. Quoi, peu importe, si. Mais il ne s'est même pas
exprimé.
Bon, en revanche, monsieur Farandou commence à dire aux interlocuteurs qu'il rencontre qu'il craint une grève dure de 3 semaines pendant les vacances. Blocage contre.
Un visionnaire.
Ah, je ne sais pas si c'est un visionnaire ou pas. Blocage pour ou contre. Voyez le sujet de Thibault Marcheteau. C'est un sujet, c'est un sondage qui a été demandé par CNews et qui. Je suis en train de lire encore. Il y a plein d'SMS qui m'arrivent pendant l'émission. Je vais couper mon portable parce qu'on est distrait par tout ce qu'il dit. Je ne peux pas tous les lire d'ailleurs. Mais bon, je salue celui qui vient de me l'envoyer. Il me comprendra. Thibault Marcheteau, sondage chez CNews. Les Français sont contre le blocage.
À la question « Approuvez-vous les syndicats qui appellent à bloquer le pays ?», une majorité, 58% des Français répondent non et se préparent déjà à des semaines difficiles.
C'est toujours les mêmes de toute façon qui se plaignent, mais c'est souvent les moins concernés. Donc voilà, moi je ne ferai pas grève, je continuerai à travailler pour eux. Mais voilà, c'est un beau bordel qui s'annonce.
On est tellement habitués à ça, surtout au moment des vacances.
Au contraire, 41% des Français répondent oui et évoquent la nécessité de paralyser le pays pour faire reculer le gouvernement.
Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut se faire entendre, que les gens peuvent se faire entendre, parce que sinon ils n'y arriveront pas. Alors je sais que ça embête plein de gens.
Ça me fait espérer, ouais, carrément un blocage, un truc qui marque le coup, en fait, pour de vrai. Une bonne fois pour toutes. Voilà, pour passer un vrai message, et puis voilà, on galère une bonne fois, et on passe à autre chose, on enlève la réforme.
La réponse des Français n'est pas la même, selon l'âge des questionnés. Si 60% des 18-24 ans approuvent la demande des syndicats, ils ne sont que 26% pour les 65 ans et plus. Quant à la proximité politique, 70% des Français qui se situent à gauche se disent en accord avec les demandes des syndicats. La proportion est inversée à droite, avec seulement 33%.
Bon, Pierre-Louis Bras, qui est président du COR, il parle nulle part. Toute la presse souhaiterait l'interroger. Il ne vient sur aucun plateau de télévision. Mais il a parlé à l'Assemblée nationale parce qu'il a été obligé, puisque c'était une commission d'enquête. Pas d'enquête, d'ailleurs.
Non, commission des affaires sociales.
Il a été obligé.
Auditionné. Bon,
c'est quand même, il sait de quoi il parle. Et que dit-il? Les dépenses sont maîtrisées. Quand même, ça nous intéresse, ça nous interpelle. Ben oui, vous souriez. Je veux bien qu'on fasse un blocage total alors que finalement, cette réforme n'a pas de sens. Pourquoi
le problème,
pas
c'est qu'on peut tout dire au rapport du COR que tout le monde
mais c'est lui le président.
Que personne ne l'a lu.
Mais c'est lui le président.
Oui, il
en non, est le président. Et
les dépenses ne dérapent pas, mais par exemple, les recettes, que dit-il sur les recettes?
Eh bien, on l'écoute. Écoutez ce qu'il dit. C'est très intéressant, monsieur Bras.
Les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses, elles diminuent plutôt à terme. Et dans l'hypothèse retenue par les gouvernements, elles diminuent très très peu, mais un peu à terme. D'accord ? En règle générale, ce propos suscite un certain étonnement. À la fois, il y aura moins de cotisants par rapport aux retraités, mais ce qu'on donnera à chacun des retraités par rapport à ce que gagne chacun des cotisants sera moindre. Une stabilisation, dans la plupart des hypothèses, des dépenses de retraite par rapport au PIB. D'accord ? Donc, ce qui permet au corps d'affirmer que les dépenses de retraite ne dérapent pas.
Bon, les dépenses ne dérapent pas, mais il nous dit que les pensions vont baisser, c'est ça?
C'est ça le problème. Et c'est-à-dire que la réforme engagée aujourd'hui par le gouvernement ne résout rien. Elle promet. Ouais.
Elle va jusqu'en 2030.
Oui, jusqu'en 2030, de combler un léger déficit, effectivement, de 10, 12, 15 milliards d'euros en fonction de la conjoncture économique. Mais le réel problème, lorsqu'on lit le rapport du COR et auquel ne s'attaque pas le gouvernement, c'est le niveau de vie relatif des retraités. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un retraité gagne un peu mieux sa vie, d'une certaine manière, qu'un actif.
Oui.
Demain, ça ne sera plus le cas. C'est-à-dire que progressivement, à partir de 2030, n'importe qui a lu le rapport du COR voit que entre 2030 et 2070, le niveau de vie relatif des retraités ne fait que baisser.
Oui.
C'est-à-dire que les personnes qui ont cotisé hier ont une meilleure retraite que les gens qui cotisent aujourd'hui.
Donc, notre génération, il faut qu'on capitalise. Oui,
mais j'attire votre attention sur un point. Florian, ça, on peut en parler. Oui. Le niveau des pensions dans les décennies qui viennent. Mais on pourra d'autant plus en parler que le gouvernement arrêtera avec l'argument de la peur, qu'il a aussi actionné sur la crise sanitaire, en disant on va vers un effondrement oui. déséquilibre du système financier si on ne fait rien sur les mesures d'âge. Donc, qui ne se comporte pas comme ça. Et ça nous permettra de discuter du reste de manière plus sereine.
Alors, Marie-Estelle,
pas, problème.
Mais c'est le gouvernement qui...
Souvent, on souligne... Moi, j'ai fait un parallèle avec le chat et les retraites. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a que... Le, mais oui, parce qu'il n'y a que le business qui compte dans ces deux sujets. Le business du chat, parce que le train doit partir. Et la retraite, on ne pense qu'à une chose, c'est l'argent. L'argent des retraites, l'argent du le budget de l'État. Mais la psy que vous êtes, la place de l'homme là-dedans, dans les deux cas d'ailleurs, la place de l'animal aussi, la place de l'homme, la place de, le rapport entre l'homme et le travail, ces sujets-là, ils sont assez peu abordés.
Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai un peu l'impression, enfin, moi, j'ai 40 ans et j'ai l'impression de vivre tous les hivers la même histoire, un peu comme Sisyphe. On a l'impression qu'en France, on fait de la bureaucratie et des grèves comme d'autres font du diabète et du cholestérol. Donc, on a un régime qui n'est pas sain, en fait. Et qu'on est dans un système, et j'ai l'impression que la perte de la souveraineté, de la désindustrialisation, pardon, y participe, font qu'on tend vers un système qui est de moins en moins humain. Déshumanisation du travail, perte des valeurs, en fait, perte de la valeur travail aussi, hein, avec un système du pain et des jeux, on vous paye à rester devant Netflix, etc. Donc on disqualifie la valeur travail. On survalorise, on surpaye des métiers qui n'ont pas de sens et exact. On sous-paye des métiers humains qui ont de la valeur, valeur prix.
On surpaye. Hein, les traders, et on devrait davantage payer les aides-soignants.
Ce qu'on appelle les bullshit jobs, les traders.
Le trader, son utilité sociale, elle est quand même...
Tout ce qui est la com, etc.
Le trader, son utilité sociale,
ce qui fait qu'il y a beaucoup d'éléments pervers dans le système.
C'est le système libéral.
Parce qu'à un moment donné...
Vous pourriez dire la même chose d'un... Non, mais vous pourriez dire la même chose d'un footballeur professionnel. On le surpaye, oui, parce que
c'est la loi du marché. Mais
non, qu'on ne paye pas assez les métiers essentiels qu'on a découverts pendant la...
Plus vous êtes en fait dans des trusts avec des très très grosses entreprises multinationales où les salariés ne sont pas intéressés, ils ne sont pas actionnaires, en fait, plus vous avez d'un côté d'énormes bénéfices, d'un autre côté des salaires et des boulots très durs avec des burn-out qui ne sont pas liés à la charge de travail, qui sont liés à la perte de sens. On a vu qu'il y avait une augmentation des burn-out pendant la crise sanitaire où pourtant les gens travaillaient moins.
La dépression
c'était lié en fait à la perte de sens du travail. Donc je pense que c'est tout le système autour du travail qui est à repenser.
C'est du boulot.
Et que l'argument de la pyramide des âges et du fait qu'on doit reculer, il n'épuise pas le sujet, loin de là.
Plus prosaïquement, vous qui êtes en contact direct à l'Élysée, mais vous n'êtes pas invité au déjeuner secret.
Non, je ne suis pas invité, ça fait le tour maintenant.
Vous n'avez pas été. Les gens de CNews n'étaient pas là. C'était d'autres gens.
Des SMS.
Bon, vous avez le sentiment que, alors, le gouvernement ne cédera pas, nous sommes d'accord.
Dernier conseil des ministres, Emmanuel Macron a dit à ces derniers, tenez bon.
Bon, tenez bon, d'accord. Mais en même temps, les autres ne veulent pas céder non plus.
C'est aussi ça.
Donc si le pays est bloqué pendant 3 semaines, M. Farandou, si il n'y a pas un train, s'il n'y a pas... ça va être compliqué. C'est
la grève des transports, ça va être compliqué. Et tenter de gagner la bataille de l'opinion. Pour l'instant, l'exécutif est en train de la perdre, mais parce qu'il n'y a pas de blocage. Très largement.
Oui,
très largement, compte tenu de
très largement, même de manière.
Ces derniers jours.
Ici, prennent mal. Ici, sont mal pris, plutôt, quand même. Bon, parce qu'on ne comprend pas vraiment pourquoi cette réforme.
On a l'impression qu'on est tous perdants quand on écoute les interventions des uns et des autres.
Et personne ne la défend vraiment, même François Bayrou, même maintenant les Républicains sont divisés.
Ou encore ce matin, un député macroniste du Loiret qui expliquait que la réforme était injuste.
Oui.
Chaque jour, il y en a.
Oui,
chaque jour, il y en a un de plus.
Le vrai problème est de savoir si on va avoir une majorité au bout du compte.
Hein. Il y en a pas.
Il y en a pas de la majorité.
Ouais. Voilà, s'il y a des macronistes qui décrochent et s'il y a des républicains qui décrochent.
Les républicains, j'espère qu'ils vont décrocher puisque leur électorat n'est pas d'accord avec M. Ciotti ou n'est pas d'accord avec M. Marleix ou n'est pas d'accord avec M. Retailleau. On est d'accord là-dessus. Je ne dis pas de bêtises.
C'est intéressant d'ailleurs.
Non, mais les députés doivent quand même représenter leur électorat.
Il y a la moitié de l'électorat droite qui est contre.
Mais la moitié, déjà que c'est plus grand chose.
Non, il y avait 20%
que la moitié des républicains.
François Fillon qui promettait la retraite.
Oui, mais
après c'était tout un programme.
Voilà,
c'est pas une.
Fallait le voir différemment. Tu peux pas. D'accord. En fait, ce que tu comprends quand tu entres dans le dossier, c'est que tu ne peux pas avoir une règle qui soit la même pour tout le monde.
Bien sûr.
Alors après, on va me dire usine à gaz. Non, tu peux pas gérer un cadre supérieur. Comme une femme de ménage, comme quelqu'un qui a eu un emploi pénible toute sa vie, ou même comme quelqu'un qui a 60 ans, gagne 2000 euros par mois en fin de carrière, quand même. Ce que je dis est tellement de bon sens. Pourquoi ça n'entre pas dans un cerveau de techno, vous qui avez travaillé avec...
Non, encore une fois, c'est pas parce qu'on ne soutient pas les grèves qu'on est pour ce que fait le gouvernement. Et d'ailleurs, cette réforme, elle pénalise une fois de plus les femmes.
Parce que l'âge légal de la retraite est un symbole, un marqueur vis-à-vis des marchés financiers.
vis-à-vis de la Commission européenne.
Bah oui, mais
et que ce gouvernement et nos technocrates ont besoin d'afficher un symbole devant les marchés, devant la Commission européenne.
Le bon élève, comme tu dis la semaine dernière.
Il faut être adoubé par la Commission
européenne. Parce que c'est la signature de la France qui est en jeu.
Mais qu'ils le disent comme ça, alors.
Le bon élève.
Oui, mais qu'ils le disent comme ça, plutôt que de...
Après, on est aussi convaincu au sein du gouvernement, et ça, personne ne le dit, que cela permettra de booster le PIB, donc de booster l'économie, et d'avoir, in fine, un quinquennat où Emmanuel Macron pourra dire, regardez, j'ai sauvé l'économie française.
C'est de la com.
Ça ne s'est pas passé sur le 60-62.
En tout cas, ça peut être une inquiétude. Alors, que me dit-on sur le président de la COR ? C'est un ancien dignitaire socialiste bien connu sur le sujet, le président du...
Donc, effectivement, il a été dans plusieurs cabinets.
J'ai travaillé avec lui. C'est un excellent spécialiste.
Solide, brillant. Oui. Financement, sécurité sociale.
Très honnête. C'est un homme honnête.
Mais nous sommes tous des hommes honnêtes. Vous connaissez des hommes honnêtes ? Très le génocide, tout à l'heure, vous n'avez pas été très honnête.
200 000 Vendéens massacrés.
Ah, oui, c'est pas rien.
Incontestable, fait histoire.
Martin Blachier, 10 nouvelles menaces sur notre santé. Alors, je suis surpris parce que cancer, je pensais qu'on allait gagner cette bataille, sinon la gagner en tout cas. Les cancers aujourd'hui, et notamment l'immunothérapie, on soigne mieux les cancers qu'il y a quelques années. Mais il y a des nouveaux cancers ?
Je ne pouvais pas ne pas mettre les cancers dans les 10 menaces sur notre santé, à quel point aujourd'hui c'est l'obsession du système de santé. On a quasiment 35 à 40% des investissements publics comme privés qui vont sur le cancer. Le plan de Biden, qui a fait suite au plan de Trump sur le Covid, c'est sur le cancer. Et c'était justement pour commencer sur une note positive. Je commence par deux notes positives. Je commence par dire que l'espérance de vie, elle est passée de 25 ans en 1750 à 60-65 ans en 1950. Et la médecine moderne a amené les gens vers le troisième et le quatrième âge. Les gens qui sont nés après les années 2000, aujourd'hui, ils vont vivre jusqu'à 90 ans. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à faire vivre les gens très vieux. Donc on peut les rassurer là-dessus. Vous allez mourir vieux. On peut dire ça aux gens. C'est une promesse de la science.
Et la science. J'ai bien compris.
Et la science.
Voilà. Ça, votre vie va être sympa parce que vous serez beaucoup plus longtemps vivant, mais il n'y aura plus la santé. Voilà.
Plus longtemps.
Après 87, 88, il n'y aura plus rien.
C'est justement la tenue de mes propos dans le livre. Donc, c'est-à-dire que la promesse de la science, c'est de faire vivre les gens très vieux. Si on arrive à donner la science à la totalité de la population, ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de pays, ce qui est encore le cas en France, mais ça se discute, je ne sais pas si on y arrivera. En revanche, comment vont se passer ces 90, 100 années de vie? Là, pour le coup, c'est relativement inquiétant parce qu'en fait, l'environnement dans lequel vous vivez n'est pas extrêmement propice à votre bonne santé. Pour vous donner une image, si vous prenez quelqu'un de 1950 et que vous l'amenez aujourd'hui en 2023, vous le mettez dans la société, je pense qu'en 6 mois, il devient obèse. Il devient à peu près addict, dépendant à tout ce qui existe. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le fonctionnement du marketing, c'est de vous rendre dépendant à peu près à n'importe quoi. Donc, il va devenir dépendant aux écrans, il va devenir dépendant à la malbouffe, il va devenir dépendant à tout un tas de drogues. Oui, j'en suis quasiment certain.
On devrait faire l'expérience.
Et en plus, il va vivre dans un environnement où son bien social va être terriblement abîmé, donc sa santé mentale va être en très mauvais état. Donc, je pense qu'effectivement, dans les 50-100 prochaines années, il y a un risque, effectivement, pour la santé des gens. Non pas qu'ils vont mourir, mais probablement qu'ils vont être en assez mauvaise santé. Et le problème, c'est que la société pense que c'est le système de santé qui va régler ça, alors que ce n'est pas du tout le système de santé. La santé des gens va dépendre de ceux qui font la vie. Et ceux qui font la vie, ce n'est pas les médecins.
Il y aura moins de cancers quand même.
Il y aura autant de cancers. Parce qu'en fait, le cancer...
En pourcentage d'ailleurs, il y a combien de Français qui sont touchés par un cancer ?
On dit qu'il y a une personne sur 6 qui aura un cancer. Mais plus vous vieillissez, plus vous risquez d'avoir un cancer. Si vous vivez jusqu'à 100 ans, vous êtes quasiment certain d'avoir un cancer. Parce que c'est une maladie de la réparation de l'ADN. Quand vieillissez, l'ADN se répare moins. Et donc, du coup, vous développez des cancers. La question, c'est est-ce que vous allez en mourir ? Très probablement que dans 10 ou 20 ans, vous aurez des cancers, mais vous n'en mourrez pas.
Je pense au cancer du poumon, par exemple, qui était vraiment très tueur dans les années 70, 80, 90 et encore dans les années 2000. J'ai le sentiment aujourd'hui, à travers des témoignages que j'entends, que ce cancer, qui était vraiment dévastateur, est mieux soigné.
Il a été révolutionné par l'arrivée des immunothérapies, les anti-PD-1, qui boostent votre système immunitaire pour lutter contre les cellules cancéreuses. Il va probablement être encore plus boosté par l'arrivée des traitements ARN messagers qui vont être associés à ces traitements-là et qui vont encore prolonger les survies. Donc les gens vont pouvoir vivre très très longtemps et probablement un jour ne mourront
pas. Les maladies neurodégénératives, est-ce qu'il y en a plus ? Est-ce qu'il y en aura plus ? Oui, parce qu'on va vivre plus longtemps.
La maladie neurodégénérative, c'est une maladie du vieillissement. À 90 ans, vous avez une chance sur deux d'avoir une maladie neurodégénérative. À 75 ans, vous avez une chance sur 5, une chance sur 4. On a fait vieillir les gens à des âges très avancés, ce qui a fait grossir deux causes de mortalité, que sont effectivement le cancer et que sont ces maladies neurodégénératives. Mais il y a un autre phénomène de santé qui existe dans la société et qui commence à des âges beaucoup plus jeunes, notamment l'obésité. L'obésité, c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous vous rendez compte qu'avant 1980, l'obésité n'existait pas aux États-Unis. Avant les années 90, il y avait zéro obèse.
Avant, zéro, aux États-Unis, il y avait zéro obèse avant
ça
80.
Ça n'existait pas avant les années 80. Ouais. L'obésité est la fabrication d'un mode de vie occidental, d'un mode d'alimentation. Aujourd'hui, c'est une personne sur deux aux États-Unis.
Pas que d'alimentation, de comportement aussi. C'est-à-dire qu'on reste chez soi.
Les sociologues disent que c'est la télé et la voiture et les zones pavillonnaires qui ont créé l'obésité. Le premier facteur de risque d'obésité, c'est l'isolement social, c'est de vivre dans une zone pavillonnaire loin du centre-ville.
Il y a combien d'obèses en France, 1%?
En France, il y a un Français sur six qui est obèse, mais il y a de plus en plus d'enfants qui sont obèses.
Un Français sur six.
Il y a 17% d'obèses en France. Mais il y a un marqueur social qui est très important. Bon. Effectivement, il faut aller dans la France périphérique pour se rendre compte de la
Alors, les 10 nouvelles menaces sur notre santé, les addictions, vous pensez qu'il y a plus d'addictions? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a moins...
La maladie du 21e siècle. On est tous addicts à tout.
Moi, j'ai l'impression que jadis, notamment le rapport à l'alcool des anciens... La première chose.
L'alcool, ça ne recule dans quasiment aucun pays et ça augmente dans tous les pays nordiques.
Mais enfin.
Les États-Unis.
C'est un témoignage.
C'est
je
plus
ne comprends.
Le même alcoolisme qu'avant. C'est le binge drinking.
Quand j'ai
c'est
commencé à travailler.
Se torche le week-end.
Oui, alors ça, c'est. Ça, c'est possible. Quand j'ai commencé à travailler, c'était en 88, j'étais sidéré. Parce que moi, je sortais d'un million, on ne buvait pas, mais beaucoup. Au déjeuner, les gens avec qui je partais en mission, à TF1, preneur de son, le. JRI à l'époque, il y avait un éclairagiste, tous ces gens-là, qui avaient à l'époque 30 ans de plus que moi, tous ces gens-là buvaient à l'heure du déjeuner. Aujourd'hui, vous entrez dans un restaurant, personne ne boit du vin à l'heure du déjeuner. Personne.
Non, mais vous soulignez quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que toutes ces maladies du 21e siècle ont un marqueur social très important. Ce sont des maladies de pauvres. En fait, la réalité sur le monde de demain, c'est qu'être en bonne santé, ça va être un job à plein temps. Aujourd'hui, les gens qui ont un peu d'argent, ils ont un coach pour leur alimentation, ils ont un coach pour leur santé mentale, ils ont un coach pour tout ce qui dépend de leur vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes tellement dans une société où il faut contrer un certain nombre de sollicitations qui fait que vous pouvez vous mettre en danger pour votre santé.
Oui, mais l'alcool...
En fait, s'occuper de votre santé,
donc
c'est
l'alcool, c'est les pauvres
ça prend
qui...
la moitié de votre espace mental.
C'est déjà les classes les plus défavorisées qui boivent
plus.
Sûr,
mais bien sûr, il y a un marqueur social extrêmement important dans l'alcoolodépendance et dans toutes les addictions, dans l'obésité aussi, et dans toutes les maladies mentales.
Mais alors, quelles sont les addictions les plus fortes à part l'alcool? Évidemment, le cannabis, le tabac.
Il y a le cannabis qui est le deuxième
pays consommateur
de cannabis.
Le tabac, c'est pas une addiction. On le met dans une addiction, le tabac.
Si, le tabac, si c'est pas une addiction.
Non, mais le. Oui, j'ai des addictions, mais bon, oui.
Mais les réseaux sociaux sont une addiction. Un des grands catastrophes de santé publique aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. On a des études épidémiologiques qui montrent que le temps passé sur Instagram pour une jeune fille de 14 ans est linéairement corrélé aux idées suicidaires. C'est-à-dire qu'on sait que Instagram donne des idées suicidaires aux jeunes filles. Et c'est comme on ne fait rien, on laisse les choses s'installer.
Qu'est-ce qu'il faut faire?
Mais on abîme le lien social et détériore la santé mentale des gens.
Mais quand vous dites-on, c'est les parents.
Mais
oui. Pardonnez-moi,
Mais ça, c'est une fausse idée.
Mais
ça,
pourquoi
c'est une très idée. Parce que, en fait, vous dites ça, c'est les parents.
Mais bien sûr, c'est les parents qui éduquent les enfants.
Les parents pauvres, ils n'ont pas le temps de faire ça. Et c'est pour ça qu'il y a un marqueur social qui est extrêmement important.
Mais Instagram, c'est pas pauvre ou riche. C'est très important.
Aujourd'hui, la valeur centrale qui a fait le XXe siècle, c'est la liberté. On a tout construit sur la liberté. Sauf que la liberté aujourd'hui, c'est quoi? La liberté pour les riches, c'est la liberté de se prendre en charge, de réussir à lutter contre ces phénomènes de société qui nous met en mauvaise santé. Sauf que les pauvres, c'est la liberté de tomber dans tous les vices de la société moderne. La société du numérique qui casse le lien social, les réseaux sociaux, la malbouffe et toutes les addictions. Et c'est ça la liberté aujourd'hui. C'est laisser ce principe de liberté tout décider alors qu'on est dans un monde qui doit poser des limites. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est de poser des limites.
Justement, pour illustrer ce que vous dites, j'ai lu que la Chine limitait drastiquement le temps.
L'utilisation des réseaux sociaux.
Le temps.
Deux heures par semaine.
Elle limite tout à la Chine. Je savais qu'il y avait chez vous. Bonne intervention de Philippe Guibert. Très en forme ce matin.
Pascal, ça demanderait beaucoup de temps.
Terminé. Si je peux terminer.
Oui, terminé.
Non subtil.
Mais non manichéen.
Oh, soyez pas lourd.
Et donc, la question se pose que c'est une catastrophe cognitive pour les gamins.
Oui, bien sûr, mais sociale.
Oui,
moi, j'ai une infirmière qui a fait ses études dessus. Elle m'a montré les données qu'elle avait. C'est des données qui font froid dans le dos. Et je suis persuadé.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut supprimer Instagram.
Il faut faire.
Je suis persuadé. Ce qu'il faut faire, c'est dire à ces géants de la tech, OK, vous avez changé totalement notre société. Aujourd'hui, vous avez changé notre monde, c'est plus le même. Mais vous devez surveiller l'impact que ça a sur notre santé.
Mais Martin, ils s'en foutent.
Mais ils s'en foutent, Martin.
Oui, bah, il faut les obliger à s'en soucier. Parce que sinon, on va au devant de graves
problèmes. Marie-Estelle Dupont.
Ça prendrait beaucoup de temps de répondre parce que je pense que c'est une question qui est à la fois médicale, philosophique, anthropologique. Mais là où je pense que tu fais un raccourci, c'est que tu remets en cause la valeur de liberté, alors que le piège dans lequel nous sommes tombés n'est pas la question de la liberté, puisqu'aujourd'hui tout le monde s'en fout de façon de la liberté, c'est la question de l'envahissement par la technologie de nos sociétés, et que la technique est allée plus vite que la pensée. Et que oui, nous sommes tombés dans des addictions. Mais c'est certainement pas.
Personne ne résistera.
C'est certainement pas à l'État d'éduquer, de se substituer aux parents. Par contre, c'est à l'État de mettre en place un système social suffisamment juste pour que les parents ne courent pas après l'argent père et mère au point de prendre la télé pour une babysitter. C'est ça le rôle de l'État. C'est pas d'interdire le temps d'Instagram.
Est-ce que je vais vous donner aucun pays au monde n'a jamais réussi à faire reculer l'obésité. Aucun pays au monde n'a jamais réussi à faire reculer l'obésité. Vous savez, c'est quoi la seule solution pour guérir une personne obèse aujourd'hui, c'est lui couper la moitié de l'estomac. C'est pour vous dire qu'on considère que c'est des petites maladies, sauf que vous avez la moitié de la population américaine qui est obèse et on n'a aucune solution pour les traiter. La seule chose qu'on peut faire, c'est de leur enlever l'estomac.
Alors,
demain,
addictions.
Je peux vous garantir que pour les addictions aux réseaux sociaux, on sera sur le même genre de considération et ce sera trop tard si jamais on dit juste c'est la liberté, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Ils sont assez grands pour ce genre de choses.
C'est pas la liberté le problème.
Bon, c'est Martin qui est venu présenter son livre.
Mais tout à fait. Bon. Mais je ne rien dire, c'était consentir au fait que la liberté était le problème, alors que pour moi, c'est ce que dit Bernanos, c'est-à-dire la déspiritualisation de l'individu, la perte des valeurs et la perte de transmission.
Bernanos, qu'on recevra demain matin. Les 10 nouvelles menaces sur votre santé, sur notre santé. Ah, bon, c'est assez sobre hein, comme couverture. Vraiment, vous n'êtes pas foulé. vous auriez pu mettre une photo de vous.
D'abord, un petit bandeau.
Ah oui, parce que c'est voilà, vous êtes de beaux garçons et c'est, merci. Je veux dire, ça attire forcément le. Les gens diront, oh tiens, c'est Martin Blachier, j'ai vu à la télévision. Bon, la dépression. Alors la dépression, ça m'intéresse parce que est-ce qu'il y a de plus en plus de gens dépressifs? Je vais dire les choses. Vous citez Stromae d'ailleurs, qui avait avoué sa dépression. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a tous des enfants, et qu'on parfois 20, 25 ans, 30 ans, dans ma génération, et on est frappé du nombre d'enfants qui aujourd'hui sont sous antidépresseurs, sous anxiolytiques, etc. Dans ma génération, et pas chez le psy, on a l'impression aujourd'hui que dès qu'un enfant a un souci, hop, on l'emmène chez le psy, on l'écoute, on lui donne des.
Pas forcément les médicaments, le psy.
Oui, c'est pas forcément les médicaments, mais j'ai fait les deux.
Parce qu'il y a une tendance en fond.
Est-ce que c'est parce qu'on exagère, c'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens « aide-toi, le ciel t'aidera » C'était intéressant, d'ailleurs, vous avez lu l'interview de M. Bronner dans le journal du dimanche, où il explique que tout le monde aujourd'hui exclut sa propre responsabilité sur la vie qu'il mène. C'est jamais de ta faute.
Oui, c'est la tendance ordinaire.
Bon, voilà. Alors qu'on a quand même un peu de responsabilité sur la vie qu'on mène. Donc, dépression, est-ce qu'on s'écoute trop? Quel est votre diagnostic?
Voilà. Juste répondre sur cette question de « on s'écoute trop », le monde est devenu trop complexe pour un cerveau humain. Vous ne pouvez pas gérer toutes les stimulations que vous avez entre l'alimentation et les stimulations cérébrales. Votre cerveau va cracher. C'est pour ça qu'il y a des dépressions. La dépression, c'est le cerveau qui bug. C'est comme un ordinateur qui n'arrive plus à s'adapter à tous les changements qu'on lui donne, ça bug et ça met un certain temps à se remettre en place. Il y a un phénomène de fond sur la dépression des jeunes. Les idées suicidaires chez les jeunes, elles ont fait x2 depuis 2010. Depuis 2010, on voit la santé mentale des jeunes se dégrader.
Est-ce que c'est pas parce qu'on les écoute plus qu'avant? On les écoutait pas.
Écoutez, quand les jeunes font des tentatives de suicide, c'est pas parce qu'on les écoute trop.
Non, mais dans les années 70, je ne pense pas qu'on portait attention au mal-être des uns et des autres.
Dans les années 70, le lien social était beaucoup. Il y a deux types d'études qui ont été faites. C'est sur les réseaux sociaux et sur les cours en ligne. Il y a des sociologues qui ont étudié le phénomène des cours en ligne. On se rend compte que les enfants n'apprennent pas sur le cours en ligne. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui vous motive dans votre cerveau? Vous avez un cerveau rationnel et puis vous avez un cerveau qui vous donne envie. Ce qui vous donne envie, ce sont les émotions. Donc si vous ne mettez plus les émotions, les gens, ils n'ont plus envie. Et on est des êtres d'énergie, on rationalise, mais il nous faut une énergie vitale pour pouvoir avancer. Et ça, c'est l'envie, et ça, ce sont les émotions.
On me donne l'envie.
Donc en enlevant les émotions, Et ben du coup, vous enlevez l'envie de ces jeunes et donc du coup, Charlotte, vous les mettez dans une difficulté de
Charlotte va sortir, on terminera l'émission, on chantera tous ensemble Johnny, tiens. On nous donne l'envie, l'envie d'avoir envie. Non mais c'est très intéressant ce que vous dites, les cours en ligne qu'on n'apprend pas. Ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'il faut être ensemble.
Exactement.
Bien sûr.
S'adapter aux mimiques de l'ignorance des gens, parce qu'on fait croire aux gens dans le marketing que l'enseignement est distanciel ou virtuel et que les progrès sont réels, et c'est faux. Bon. C'est faux. Quand vous étudiez la neurobiologie du cerveau, on ne peut pas mémoriser à long terme.
En fait, c'est vous qui avez écrit le livre de Martin Bachelet.
Non, pas du tout, mais c'est important de dire que la perte du lien fait de la dépression.
C'est quoi zoonose ?
Zoonose, c'est des maladies qui vont de l'homme à l'animal.
De l'homme à l'animal.
D'accord. Donc aujourd'hui, la biomasse du monde, c'est 20% nous et 80% des animaux qu'on élève pour les manger. Et il reste 1,5% pour tout le reste de la planète.
Ça, c'est le Covid, bien sûr. Bon. C'est passionnant, évidemment. Oui, alors, je pose des questions, évidemment, dont je sais
les
réponses.
C'est la perte de sens qui augmente la dépression des jeunes. Allez. Pas de lien, pas de sens.
De lien, surtout.
Pas de lien, donc pas de sens. Sans lien, la vie d'un mammifère n'a pas de sens. L'éthologie le prouve. Ben non, mais c'est un sujet intéressant.
C'est important d'avoir le dernier mot ou pas, non?
Pas du tout. Oh, ça va. Hein. Là, les six mâles alpha. Là.
Je plaisantais. Marie-Estelle, je plaisantais.
Enfin. Faites un peu les gentlemen, là. Montez votre niveau.
Non, mais ce qui est passionnant dans ce qu'on a discuté, c'est l'état de notre société.
Taisez-vous sur la santé. Hors d'ici tout à l'heure et qu'on ne réplique point.
Ah, tiens, il est lancé. Après?
Non, mais soyez gentils avec Marie-Estelle. Non, c'est vrai, vous vous comportez comme des mâles alpha des années 50. Vous allez bien?
On a bien fait.
Audrey Berthaud. Taisez-vous. Bah, vous allez vous coucher. De toute façon, il est 10h30. Allez vous coucher. À demain, c'est les 40 ans. Allez vous coucher, c'est dans Hibernate.
Mais non.
C'est dans quoi?
Mais
allez
non,
vous coucher.
C'est quand il envoie sa fille en Angleterre, là. Mais j'ai pas dîné. Allez vous coucher.
Allez vous coucher.
Il faut finir, Michonnet.
C'est les grandes vacances. Michonnet!
Voilà.
Demain. Mais pourquoi il l'appelle Michonnet? Bon, demain, c'est les 40 ans de la mort de Louis de Funès. Formidable. Bah oui, demain, Louis de Funès. Quel génie. Audrey Berthaud.
Après l'envoi de chars par l'Allemagne, le Kremlin dénonce l'engagement de l'Occident dans le conflit. Hier, les États-Unis et l'Allemagne ont annoncé l'envoi respectif de 31 chars lourds Abrams et de 14 blindés Léopard 2. Volodymyr Zelensky demande à présent des avions de chasse et des missiles de longue portée. L'Ocean Viking a secouru 95 migrants au large de la Libye hier. Selon les rescapés, au moins 4 personnes seraient tombées à l'eau avant cette opération de sauvetage. La Méditerranée, qui est la route migratoire la plus dangereuse du monde, selon les ONG. Et puis 2 ans après l'exclusion de l'ancien président américain, Meta a annoncé qu'il allait, dans les prochaines semaines, mettre fin à la suspension des comptes de Donald Trump sur Facebook et Instagram. Le public doit pouvoir entendre ce que les personnalités publiques disent afin de pouvoir faire des choix éclairés. Justifier le géant des réseaux.
Vous avez bien fait de venir, Philippe Guibert et Olivier D'Artigol, ce matin. Vous avez pris votre paquet.
On est
en pleine forme pour la journée.
Vous avez bien fait. Non, mais c'est vrai, ils sont. Vous avez raison, Marie-Estelle, de les remettre en place. Bon, Alors, je rappelle le livre de Martin Blachier, Les 10 nouvelles menaces sur notre santé. D'abord, je fais juste une petite parenthèse. Il n'y a pas de 10e vague qui arrive, là, on est tranquille.
Il
y
en
pas...
aura N vague.
Oui, là, on est bien. Donc, je crois que ça y est, là. J'ai l'impression qu'on a compris.
Même les Chinois ont compris.
Oui, bah, il a fallu du temps. Et même Philippe Guibert, il dit plus un mot là, sur le Covid, on ne l'entend plus. Bon, qu'est-ce qu'un climato-dépressif ?
Ça, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en plus...
Pour une fois.
En plus, il y a en plus un monde dans lequel vous avez du mal à vous projeter, forcément, puisque vous dites que ça va être la fin du monde très bientôt. Et après, il arrive des catastrophes naturelles qui vous rappellent que c'est vrai. Et vous savez, Katrina, il y avait eu un ouragan à
oui,
Katrina,
bien sûr,
et il y avait eu des inondations, et les gens ne sont pas morts inondés dans leur maison. En revanche, l'impact sur la santé mentale des gens a été considérable. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que le vrai impact du réchauffement climatique, ce sera un impact sur la santé mentale des gens. Parce qu'en fait, notre cerveau n'est pas capable de vivre dans un monde où il peut arriver une catastrophe tous les 4 matins qui va détruire votre vie ou qui va augmenter une anxiété de façon très importante. Donc, on s'est moqué des gens, et moi le premier... qui parlait d'éco-anxiété, de climato-dépression, sauf qu'en fait, c'est une réalité. Et moi, j'ai parlé à des pédopsychiatres, ils ont des jeunes enfants dans leur service qui sont vraiment en état très mal
parce
à
que
cause
toute la journée, de ce cette génération, je disais,
on
cette
leur parle
génération.
Que de crise.
Voilà, c'est-à-dire que cette génération, tu leur dis, manger de la viande, c'est mal. Rouler en voiture,
faire un bébé, c'est
mal. Prendre un avion, c'est mal. C'est-à-dire qu'ils sont fabriqués depuis des années, tout ce qu'ils font, c'est mal. Donc évidemment, ça peut, à un moment, agir sur ton cerveau. Bah en tout cas, merci. Je ne sais pas si c'est bientôt la fin du monde, mais ça va être la fin de l'émission. Ah. Et c'est un peu,
presque pareil,
d'ailleurs, deux choses qui ne sont
la
pas
contre. Sub-
qui ne sont pas contre.
Nous, on va rentrer.
Comment
la, fin, la fin de notre supplice.
Qu'est-ce que vous avez dit?
On va rentrer.
La fin de notre supplice.
La quoi?
La fin de notre supplice.
Mais non, arrêtez. Bon. Et on va terminer, donc, comme je l'ai dit, on va, d'abord en saluant Charlotte Gardzella qui était avec nous ce matin et Justine Cerquera, en remerciant Michael Thomas qui était à la réalisation, Zaven Ahmed qui était au son et David Tonnelier qui était à la vision. On va terminer avec Johnny, on avait dit qu'on terminait avec Johnny et c'est vrai que, qu'on nous donne l'envie, l'envie d'avoir envie. Ça sera Jean-Marc Morandini dans quelques secondes. Merci, hein, vraiment merci beaucoup. Merci Marie-Estelle, vous avez été... Voilà. Ça, c'est une chanson qui donne précisément de l'énergie. On pourrait se réveiller, on pourrait la mettre en réveil le matin.
Ou pas.
Et demain, donc, les 40 ans de la mort de Louis de Funès. Allez vous coucher. À ce soir.